On commence dans 1 minute. Encore 1 seconde, ça ne vous dérange pas. Encore 1 minute. Désolé, bonjour, bonsoir. On va. Une seconde. On va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, on était dans les. L'histoire, en fait, de la destruction de la Galoute. La Galoute du Beit Sheni, du deuxième Beth Amikdash, avait commencé avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, et ça c'est la destruction du Beth Amikdash, c'est la destruction du temple, ça c'est le premier épisode. Puis après, il y en a eu un second qui était la destruction de. Pardon, encore une fois. Qui était la destruction de Tour Malka. C'était la destruction de Tour Malka. Et puis après, donc il y avait trois épisodes en fait, et trois grands épisodes dans la. Dans la. Pardon. Trois grands épisodes dans la Galoute à la fin du Beit Sheni, c'était Yerushalayim, puis Tour Malka. Tour Malka, c'était une région qui était très densément peuplée. Et en fin de compte, c'était Bétar qui était la ville fortifiée. Et on avait dit que ces trois endroits-là, ils avaient une place symbolique. Ils avaient une place symbolique puisque Yerushalayim, il représente le cœur, Yerushalayim, il est au centre. Yerushalayim, c'est comme le cœur du monde, c'est au centre d'Eretz Israël. Il y a Bétar qui représente la droite, parce que la droite, c'est la main forte. Bonsoir. Et il y avait Tour Malka qui représentait la multitude. On avait expliqué que la multitude, c'est le côté gauche du monde. Voilà. D'accord. 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 Okay. Donc ça, c'était ce qu'on avait parlé la semaine dernière. C'était ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Alors, je vais. Voilà, au matin. Voilà, 1 seconde. 1 seconde, je vais. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était ce qu'on avait parlé la semaine dernière. C'était juste pour se remettre dans le bain ou pas vraiment. D'accord. Alors il dit le maral comme ça. Umeata matril les saper bechorban Yerushalayim. Donc la Gemara, elle commence à raconter la destruction de Yerushalayim. Et la cause première, le point de départ de la destruction, c'était l'épisode de Bar Kamtsa. Et de là, le point de départ, c'était l'épisode de Bar Kamtsa. Et puis ça a entraîné un espèce d'engrenage infernal qui a mené à la destruction de Yerushalayim. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un premier épisode. L'épisode, c'est le repas de Kamtsa qui invite par erreur Bar Kamtsa. Il se dispute, il lui dit de sortir. Bar Kamtsa est très vexé. Il va chez l'empereur. Il dit du Lashon Hara. L'empereur envoie un corban, etc., 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 jusque de fil en aiguille, on se retrouve avec la destruction d'Yerushalayim. Mais le point de départ, c'était, comme on a dit, la dispute entre Kamtsa et Bar Kamtsa. Pourquoi? Parce que, dit-il, Yerushalayim, c'est une ville sainte, et le Mizbéar se trouve dedans. Et le Mizbéar, c'est ce qui complète le monde. Le monde, il vit grâce au Mizbéar, comme il y a marqué. Comme il a marqué que sans le Mizbéar, sans le Korban HaTamid, le monde ne peut pas continuer à exister. Et donc, pardon, voilà. Et Chachamim, ils disent, plus que ça, ils disent, si les Oumot, ils savaient qu'est-ce que le Beth Amikdash y contribue, alors il aurait construit en or entièrement, même pas en briques. Si les Goïm, ils savaient à quel point le Beth Amikdash y contribue au monde, alors, c'est eux-mêmes qui l'auraient construit, et pas en pierre, mais on l'aurait construit en or. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est quelque chose de tellement élevé qu'en fait, c'est quelque chose qui amène le monde entier à son tachlit, à sa réalisation. Et donc, quand le monde entier il a atteint sa perfection, ben, il n'y a pas que les Juifs qui en profitent. Un monde parfait, tout le monde en profite. Les nations compris. Par un espèce de ricochet. Et d'ailleurs, puisque le Beth Amikdash, il a pour fonction de perfectionner le monde et pas seulement la vie des Juifs, c'est pour ça que la Torah a dit qu'on accepte les korbanot des non-Juifs. Quand un goy, il accepte les korbanot, on les accepte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le non-Juif, il a une part dans le Beth Amikdash. Quelque part, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui parle aux non-Juifs. La preuve, encore une fois, c'est qu'on accepte des korbanot. Or, si les non-juifs, ils étaient en opposition fondamentale au Beth Amikdash. Donc, le fait qu'un non-juif, il offre des korbanot, ça aurait été absurde. Le fait qu'on accepte les korbanot, ça veut dire que quand un non-juif, il amène un korban, il est quelque part dans la même démarche qu'un juif qui amène un korban. Un juif qui amène un korban, il y a une démarche du juif qui amène le korban. Et cette démarche, on la retrouve aussi chez le non-juif. Pourquoi? Parce que le non-juif, quelque part, il comprend qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash. Ouais. Et plus que ça, si les non-juifs, ils avaient une opposition fondamentale au Beth Amikdash, à la première opportunité, ils l'auraient détruit. Or, dans tous les cas, ils n'ont jamais détruit à la première opportunité. Au contraire, c'est à la fin, quand il y a une révolte, quand il y a quelque chose de politique, c'est là qu'ils disent, bon, bah, pour détruire l'esprit de la nation juive, on va détruire le temple. Mais fondamentalement, le temple ne dérangeait pas les nations. Donc, ça prouve que les nations, elles comprennent le Beth Amikdash. Elle ne s'y oppose pas fondamentalement. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
Pour eux, enfin, si, enfin, la Gemara elle dit effectivement que s'ils savaient la valeur du Beth Amikdash, ils l'auraient construit. Donc ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas a priori. Donc
Non.
est-ce que ce n'est pas simplement architectural, par exemple, cette considération qu'ils avaient pour le Beth Amikdash, qui ont fait
Non.
qu'ils n'ont pas détruit.
Bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que s'ils comprenaient à quel point ça leur était utile, ils l'auraient construit en or. Ils comprennent un petit peu, ça leur parle, mais ils comprennent pas à quel point ça leur est utile. Ils sentent une certaine appartenance à un endroit qui les inspire, c'est un endroit qui les inspire. Donc quelque part, ils ont un rapport au Beth Amikdash. Mais de là à dire, c'est l'endroit du monde, c'est un lieu au monde, ça non, il y a des limites. Ils comprennent, mais jusque dans une certaine limite.
D'accord, merci.
Et donc le Maharal, il dit, bien que fondamentalement les nations s'opposent au peuple juif, les nations et le peuple juif, c'est une vieille, il y C'est un vieux problème, c'est un vieux désamour. Mais le Beth Amikdash, il n'y a pas d'opposition frontale entre les Juifs et les non-Juifs en ce qui concerne le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, c'est un endroit qui complète le monde, non seulement qui complète le monde, mais qui rend le monde complet. Et donc, puis c'est un endroit qui rend le monde complet, c'est un endroit qui perfectionne, qui rend parfait la vie des non-Juifs. Et puisque c'est comme ça, c'est un endroit qui est à l'avantage des non-juifs. Donc le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit fondamentalement par les non-juifs. Fondamentalement, ce n'est pas les non-juifs qui ont détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? C'est la Sinatrina et la Marloquette qui ont amené un espèce d'épisode politique où les Romains ils se disent, bah, en fait, il nous reste comme solution, si on veut calmer les juifs, il va falloir qu'on détruise le Beth Amikdash. Pas de gaieté de cœur, mais c'est quelque chose de politique. Donc fondamentalement, ceux qui ont détruit le Beth Amikdash, ce n'est pas les Romains. Les Romains, ils ont été quelque part contraints et forcés. Ils auraient voulu conserver le Beth Amikdash. Les circonstances politiques les ont contraints à le détruire. Mais dit-il, il y a quelque chose, dit le Maharal, il y a quelque chose d'un peu plus subtil. Ce n'est pas juste que les Juifs, ils ont provoqué la destruction du Temple, mais que quelque part, le Beth Amikdash, il provoque la rébellion. C'est-à-dire qu'il y a le Beth Amikdash en soi, les goyim y comprennent, mais le Beth Amikdash en tant que c'est quelque chose qui donne une identité aux Juifs, donc puisqu'ils ont une identité, alors ils se rebellent, puisqu'ils ne sont pas soumis. Ils sont pas soumis. Quelqu'un qui conserve son identité, il n'est pas soumis. Puisqu'il n'est pas soumis, il se rebelle. Donc c'est pour ça que quand on dit au roi des Romains, les Juifs se sont rebellés, alors il dit, on va voir est-ce qu'ils acceptent de moi un corban. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout de suite, il comprend, s'il y a une rébellion, c'est que quelque part, le Beth Amikdash leur donne une identité et leur permet de se rebeller encore et toujours, et de résister encore et toujours. La potion magique, si on veut, des Juifs qui leur permet de résister encore et toujours, c'est le Beth Amikdash. Donc, comment est-ce qu'on vérifie la soumission des Juifs? En voyant est-ce qu'ils acceptent un corban qui arrive des non-Juifs? Et c'est pour ça qu'il a choisi le Beth Amikdash pour voir est-ce que malgré tout, ils acceptent les corbanotes. Mais comme ça, il a dit, si on voit, c'est ça que Bar Kamsa, il a organisé les choses de la manière suivante. Il a dit, envoyez un corban. Et ils n'accepteront pas. Et puisqu'ils n'accepteront pas le Corban, c'est donc la preuve que le Beth Amikdash est un endroit indépendant. Donc, Bar Kamsa, il avait déjà tout calculé, tout le Mahalar. Il a dit, si les Romains y voient qu'on n'accepte pas des Corbanotes, ça veut dire que le Beth Amikdash est un lieu d'indépendance. Et en tant que c'est un lieu d'indépendance, il faudra le détruire. Donc, c'est pour ça que Bar Kamsa, il a tout fomenté. Il leur a dit, envoyez un corban. Il a fait en sorte, il s'est assuré que les Juifs ne pourraient pas accepter le corban. Et donc, ça allait mener à la destruction du temple. C'était ça qu'il cherchait à faire, Bar Kamsa. Pourquoi? Comme on a dit, s'il y a une rébellion, la cause de la rébellion, ça peut être que le Beth Amikdash. Donc, il a voulu prouver aux Romains que le Beth Amikdash, c'était un lieu d'irréductibilité, comme dans Astérix, il y a les irréductibles Gaulois. Y a les irréductibles juifs et leur Beth Amikdash. Et donc, c'est quoi la solution? Il fallait le détruire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les Romains, ils envoient un corban et que ce corban, il soit pas acceptable pour les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont leur système. Ils ont leur moumim. Les goyim, il y a des choses qu'ils ne considèrent pas comme des défauts et non considèrent comme des défauts. Donc les Romains, ils se sentent rejetés du Beth Amikdash. Donc ils voient que les Juifs, ils se sentent tout seuls au Beth Amikdash, ils se sentent supérieurs. Et donc, de fil en aiguille, ça va amener à la destruction. C'est ça l'idée qu'ils développent ici. C'est ça l'idée, donc c'est ça l'idée, c'était ça le plan de Bar Kamsa.
Il a entendu plusieurs.
Oui, les goïms, en fait, les goïms, quelque part, ils ne voyaient pas le problème. C'est Bar Kamsa qui a créé une tension. D'accord. Alors maintenant, c'était quoi le plan de Bar Kamsa pour reprendre? C'est qu'il a fait un défaut dans le coin de l'œil ou la commissure de la lèvre, que les goïms, ils ne considèrent pas ça comme un moum. Donc si les Juifs, ils n'acceptent pas le Corban et qu'ils disent, les Romains, ils disent, pourquoi vous n'avez pas accepté le Corban de l'empereur? Parce qu'il avait un défaut. C'était quoi le défaut? Il avait une petite fente à la commissure des lèvres. Ben, les Romains, ils vont dire, mais c'est pas un défaut, vous vous moquez de nous. Et pour les Juifs, on considère ça, oui, comme un défaut. D'où ça vient, hein, que les Juifs et les non-Juifs, ils ont une autre compréhension de ce que c'est un défaut. Les Juifs, ils ont des corbanotes, les non-Juifs, ils ont des corbanotes. Et là-dessus, on s'entend, il y a des holotes, ouais, il y a des sacrifices, on va tout brûler. Les goïms, ils comprennent ça, et ils les envoient à Yerushalayim. Mais par contre, quand on leur commence à leur dire ça, c'est un défaut, ils disent ah non, 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 pour nous, c'est pas un défaut. D'où ça vient cette différence dans la compréhension de ce que c'est un défaut? Alors il dit comme ça, sache que les peuples, ils ont un rapport qui est un rapport au corps. Le non-juif, son rapport principal, il n'a pas un rapport à la spiritualité en tant que telle, il a un rapport au corps. Et donc, pourquoi? Parce que c'est, ils n'ont pas vraiment, la neshama ne les intéresse pas. La neshama ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est vivre bien. Le olam haba, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce monde-ci. Ce qui les intéresse, c'est le présent. Ce qui leur intéresse, c'est le corps et ce qui va avec. Et ils envoient des corbanotes pour avoir une bonne vie. C'est ça leur rapport. Leur rapport au monde, c'est un rapport qui est très peu spirituel. Et donc, quand ils voient un corban dont le corps est intègre, ils disent ça suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est comme nous. Nous, on vit, on veut avoir un corps intègre. Mais un corps intègre, ce n'est pas juste qu'on est intègre physiquement comme les Grecs. C'est qu'on a une société qui est intègre, mais pas plus que ça. Une société qui est intègre, ce n'est pas une société spirituelle. On peut avoir une société très juste. On pourrait imaginer une utopie où les gens ils vivent dans la justice, mais ils ne cherchent pas Dieu. C'est une société juste, mais ce n'est pas une société spirituelle. C'est-à-dire que le corps de l'homme, le corps de la nation, il est intègre, mais on ne va pas plus loin que ça. Donc quand ils envoient un corban, ils disent si le corps du corban, il est intègre, ça nous suffit parce que nous aussi, le corban, il est à notre image. On connaît l'idée du ramban, que quand on amène un corban, ce corban, il nous représente un petit peu. Quand on sacrifie un animal, on le sacrifie à notre place. On le sacrifie à notre place. Puisque nous, on se représente comme un corps, on va parler du corps de l'homme, du corps de la nation, alors si l'animal, il a un corps en bon état, ça nous suffit. C'est ça qu'on va offrir à Dieu. Mais les Juifs, ils ont quelque chose qui dépasse ça. C'est-à-dire que non seulement pour les goyim, ils ne perçoivent pas ça comme un moum, mais qu'en irait en fait, Béhémeth, ce n'est pas un moum. Le Béhémeth, quand un goy, il amène un corban avec un petit défaut qui n'entache pas le corps, on pourrait l'accepter. Quand les goyim, ils envoient un corban et qu'il y a une petite fissure à la commissure des lèvres, on l'accepte. Pourquoi? Parce que le corban, il a l'image de celui qui l'offre. Quand c'est un juif, on a une plus grande demande. Pourquoi? Parce qu'un juif, non content d'avoir un corps, il a une âme. Et donc, il doit être parfait même dans les choses qui ne sont pas le corps. Le coin de l'œil, la commissure de la bouche, c'est le regard, c'est la parole. C'est des choses qui dépassent le corps. C'est des choses qui sont spirituelles quelque part, qui symbolisent un défaut de spiritualité. Et si ce n'est pas au point, le corban d'un juif, on ne l'accepte pas. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a Kamsa, on a Bar Kamsa qui amène un corban. Les gens se disent c'est le corban du juif, bien qu'en fait c'était le corban d'un goy. Donc on ne l'accepte pas. Mais si ça avait été le corban d'un goy, peut-être qu'on l'aurait accepté. Oui, une seconde. Une seconde. Je veux finir le développement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte pas le corban du juif, mais on accepte le corban du goy quand ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le juif, il est supérieur au goy. Donc en fait, Bar Kamsa, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un défaut qui est un défaut chez le juif et pas chez le goy. Donc maintenant, si un Romain il avait amené ce corban, on l'aurait accepté. Mais parce que c'est moi, Bart Kamsa, qui amène ce corban, on l'accepte, on l'acceptera pas. Donc ça va montrer aux Romains que les Juifs, ils se sentent supérieurs aux Goïms, et donc ils sont indépendants, et donc il faut détruire le Beth Amikdash. C'est encore plus machiavélique que ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait montrer, Bar Kamsa, il voulait montrer aux Romains que ce qu'on accepte d'eux, on n'accepte pas du Juif. Pourquoi? Parce que le Juif, il est supérieur au non-Juif. Et comme, si le Juif, il est supérieur, c'est donc qu'il n'est pas soumis. S'il n'est pas soumis, il faut le soumettre. Comment est-ce qu'on le soumet? Par le Beth Amikdash. Donc, c'est ça l'idée qu'on a dit, Une seconde, est-ce qu'on en était? C'est ça qu'on a dit, que le défaut, un défaut au coin de l'œil, au coin de la lèvre, pour les goïms, ce n'est pas un moum. On accepterait leur korbanot. Pourquoi est-ce qu'on accepterait leur korbanot? Parce que venant d'un goï, on n'attend pas plus. On attend un corps en bon état. S'il a une jambe cassée, s'il a des vrais défauts, on n'accepte pas. Mais si le corps, il est intègre, mais il y a l'œil ou la bouche qui ont un défaut, venant d'un goï, ça ne nous dérange pas. Venant d'un juif, duquel on attend plus, ça nous dérange. Donc, quand Bar Kamsa il amène et que, le Badin il accepte pas, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'en fait les Juifs se sentent supérieurs. Et donc, s'ils se sentent supérieurs, ils sont indépendants. S'ils sont indépendants, les Romains, leur réaction immédiate, ça va être, il faut les rabaisser. Donc ça, c'était le plan. C'était le plan de Bar Kamsa. Et donc, la Gemara, elle ramène que c'était quoi le moum? Il y a deux avis, comme on a dit. Il y a un avis qui dit c'était bisfataim, c'était une petite fissure dans les lèvres. Pourquoi? Parce que les lèvres, c'est la parole. Et bien que la vache, elle ne parle pas, mais elle a une voix. La vache ne parle pas, elle n'a pas de parole, mais elle a une voix. Et la voix, c'est quelque chose de pas corporel, c'est une énergie. Et il y a aussi le regard. Donc, il y en a qui disent le pélaï. Donc, il y en a qui disent le défaut, c'est un défaut de la bouche. Et il y en a qui disent c'est un défaut de l'œil. C'est quoi la question? C'est en fait, est-ce que. Donc, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les deux? Pardon, excusez-moi, je suis pas très. Voilà. Je vais essayer de parler plus clairement. Ça va? T'es crevé? Ah, d'accord. Donc, on l'aura accepté. Oui, parce qu'en fait, venant d'un goy, on s'en fiche. C'est pas un défaut venant d'un goy, mais venant d'un juif, c'est un défaut. Ben, oui, mais les gens, ils vont voir ça, hein, comme un corban qu'un juif il amène. Donc, il y aura un problème. Donc, ici, on nous dit comme ça. Donc, pour reprendre, Bar Kamsa, il va chez les Romains, il leur dit les Juifs sont en train de se révolter. Les Romains ils lui donnent un corban à Yerushalayim. Il fait un défaut qui n'est un défaut que dans le corban d'un Juif, mais pas chez les Goïms. C'est quoi le défaut? Il y a deux avis. Un avis, il dit c'est la commissure des lèvres, ce qui signifie un défaut de parole. Il y en a qui disent c'est dans l'œil. Pourquoi? C'est quoi la discussion? C'est est-ce que la discussion, elle est. Est-ce que quand je fais une petite fissure dans la bouche, chez un animal, est-ce qu'on voit ça comme un moum? Chez un homme qui a la lèvre fendue, il a du mal à parler. Donc pour lui, c'est un défaut. Mais un animal qui a la lèvre fendue, vu qu'il ne parle pas, peut-être c'est pas un défaut. Alors qu'est-ce qui serait, oui, un défaut? Une petite blessure à l'œil, parce que bien que l'animal ne parle pas, mais il voit. Donc vu que la vision, c'est quelque chose d'élevé et que l'animal, il partage ça, donc quand on voit une blessure à l'œil, d'un animal, c'est l'équivalent, donc ça ne peut pas représenter un juif qui a un regard sain. Ça rappelle l'histoire de Bilam, que Bilam, il a vu certaines choses et qu'il est devenu aveugle. Il est setoum ha'ayin. Bilam, il a vu certaines choses, il a vu comment est-ce que Hachem, il fait attention au peuple juif et il n'a pas compris, il est devenu aveugle. Le peuple juif, il a une vision saine. Et donc, quand un juif, il amène un corban et que ce corban, il a quelque chose, une imperfection dans le regard, alors cet animal, il ne peut pas être à la place d'un juif qui a fondamentalement une vision saine. Donc, il y a un avis qui dit, s'il y a un défaut dans l'œil, même que c'est un petit défaut, ça, c'est quelque chose de représentatif. Mais le fait que l'animal, il ait une fissure à la lèvre, ce n'est pas représentatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre la parole d'un homme Et le bruit, le fait que la vache, elle va faire une voix. Mais donc le fait que l'animal soit incapable de produire des sons, ça ne représente pas un moum chez l'homme. Ça ne représente pas un moum chez l'homme, donc ce n'est pas important. Et l'autre, il dit si. La voix de l'animal, elle fait écho à la parole de l'homme. Et s'il y a un défaut chez l'animal, alors ça ne peut pas représenter l'homme qui parle et qui a une voix. D'accord. Mais en tous les cas, c'était des défauts qui étaient des défauts non pas du corps, mais des défauts de la spiritualité. Et donc, puisque les Juifs, ils n'acceptent pas ça au Beth Amikdash, c'est donc un signe qu'ils sont plus grands, plus élevés que les Goïms. Et de dire que les Juifs sont plus élevés que les Goïms, ça, c'est une rébellion. Ça, c'est une rébellion. C'est une rébellion contre les peuples, puisqu'ils expriment, quand on n'accepte pas un corban parce que c'est le corban d'un juif, on exprime par la présente qu'on est supérieur et qu'on est plus saint. Et donc, si on est plus saint et supérieur, on n'est pas soumis. Et donc, c'est quoi la réaction? Si le peuple juif, il est insoumis, alors il faut détruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que hein, le roi des Romains, le roi du monde, il veut que tout le monde lui soit soumis. Donc ça, c'était la démarche de Bar Kamsa. Est-ce que vous voulez que je répète?
Ah non, c'est bon.
D'accord.
Ce mariage-là, c'est un truc qui est préparé depuis longtemps, un truc comme ça.
Non. C'était
Donc même
quand
c'est un coup, il attendait que l'équipe pour envoyer le.
Alors, on pose une question ici. Comment est-ce que Bar Kamsa, il a une idée pareille? C'est-à-dire d'où ça vient? C'est-à-dire que là, c'est un plan diabolique. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des symbolismes très fins où on comprend très bien les symboliques des choses, le poids symbolique des choses. C'est vraiment un plan machiavélique. Mais c'est pas pour rien que le Maharal, il appelle Chacham Le'Hara. C'était un grand Chacham. C'était un grand Chacham, Bar Kamsa. C'était un homme, pas juste un Kandien Chacham. Aujourd'hui, on a très peu de Chachamim. On a des Talmidei Chachamim. Ouais, on a des élèves des Chachamim. On peut avoir 70 ans. On va dire, cet homme-là, c'est un Talmid Chacham. Rares sont les Chachamim. Bar Kamsa, c'était un Chacham, Le'Hara. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'était un génie du mal. Chacham, Le'Hara. Donc, en fait, quand il a eu cette Sinat Chinam, quand il a subi de plein fouet, quand il a subi la Machloket, il a dit, je vais me venger. Comment est-ce que je vais me venger? Et il a élaboré tout ce plan-là, qui était très profond, très fin, très subtil.
Son but au final, enfin, dans sa colère, c'est de dire finalement que le Beth Amikdash il sert à rien. Si les gens se font comme ça, ça a aucun sens qu'on ait le Beth Amikdash finalement.
Alors, est-ce que c'était ça le sens de l'action de Bar Kamsa, ou bien c'est la colère et l'humiliation qui demandent la destruction de tous ceux qui les ont humiliés, en fait? Ça veut dire que puisque les Chachamim, puisque les gens importants du peuple, ils ont vu mon humiliation, donc je veux les détruire tous autant qu'ils sont. La vengeance, elle marche
D'accord.
comme ça. Je veux rien prouver, je veux détruire. La vengeance, c'est pas une volonté de prouver, c'est une volonté de détruire. C'est-à-dire, je pense que c'est ça. Ça reste quand même assez basique. Ici, Bar Kamsa, il est dans une démarche de vengeance. Il s'est fait humilier au repas, donc il cherche à détruire.
Et donc le
D'accord.
meilleur, donc le seul moyen d'attaquer le peuple, c'est d'attaquer, enfin c'est
Ben, en fait, le
de mettre en
soumettre.
place ce plan pour chauffer les Romains, quoi.
Voilà. Et ce qui va être profond, c'est qu'en fait, les gens importants, c'est qui? C'est les Chachamim, c'est les Kohanim. Ces gens-là, ils sont importants quelque part. Pour qu'il y ait des gens qui soient indépendants, qui soient importants dans une société, faut que la société elle, ait une certaine indépendance. Ça veut dire que si je suis dans une société qui est complètement inféodée aux Romains, la personne importante, c'est le préfet, c'est le consul. Mais pourquoi est-ce que le Chacham, il est important? Parce que malgré la présence des Romains, il y a une société juive. Donc en fait, ce que Bar Kamsa, il veut, c'est qu'il veut détruire la société juive, et partant, en détruisant la société juive, il va détruire la place des Chachamim. Parce que les Chachamim, ils ont de place que dans une société qui est indépendante. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir des rabbanim, mais on peut avoir des talmidei chachamim qui ont une place dans la société que parce que le judaïsme, il s'est érigé en communauté indépendante, qui n'est pas inféodé aux valeurs ni françaises, ni américaines, etc. Parce que sinon, alors on n'aurait que des politiciens et des acteurs, des chanteurs et des joueurs de foot. Le fait que la communauté juive, elle ait érigé quelque part certains rabbanim en figure d'autorité, en figure qu'on regarde, c'est parce que la communauté, elle est indépendante. Donc Bar Kamsa, en cherchant à retirer l'indépendance du peuple juif, ce qu'il cherchait à faire, en fait, c'était à saper la place de ces Chachamim qui ont supporté son humiliation.
800.
D'accord. Donc il dit,
Merci.
maintenant qu'on a expliqué ça, mais oui, mais c'est un Chacham. C'est un Chacham, les Arabes. Oui. Alors, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend mieux une grande question. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous dit comme ça, que le roi, l'empereur, il a envoyé un corban. Bar Kamsa, il a fait un moum, on n'a pas pu accepter le corban, et de fil en aiguille, ça a mal fini. Mais on n'avait qu'à expliquer au Caesar, on n'avait qu'à expliquer aux Romains, que le corban, il était invalide. Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas expliqué ça? Ils arrivent, ils disent, pourquoi vous n'avez pas accepté notre corban? Vous êtes en train de vous rebeller? Non, non, c'est que pour nous, le corban, il est invalide. Répond le Maharal, en fait, c'est pas vrai. Le corban, pour un non-juif, il était valide. Le problème, c'est qu'il avait été, pour un non-juif, ce corban venant d'un non-juif était valide. Le problème, c'est que c'est Bar Kamsa lui-même qui l'a amené. Et quand un juif, il amène un corban qui est invalide, même qu'à la base, c'est le corban du goy, on ne va pas l'accepter pour éviter la confusion ilchatique. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu expliquer? Que ce corban, il est valide pour les non-juifs et invalide pour les juifs. Et donc, les Romains, ils auraient compris tout de suite qu'il y a une différence, qu'en fait, les juifs, ils se considèrent supérieurs aux non-juifs. Donc, expliquer, ça n'aurait servi à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Romains, ils toléraient le Beth Amikdash tant que le Beth Amikdash était universel. Dès qu'il y a un gramme de particularisme, c'était fini. Ouais, ça, c'est un grand yesod qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tant que le juif, il se proclame de l'universel et qu'il affirme des valeurs universelles, alors, ah oui, c'est très beau, etc., etc., etc. Dès qu'il y a une dimension particulière du juif, alors, c'est plus du tout audible de la part des non-juifs. C'est-à-dire que il y a certains rabbanim ou certains philosophes, par exemple, on peut penser, par exemple, à Jonathan Sacks en Angleterre, qui a beaucoup développé sur l'universalisme du judaïsme. Et il était très, très apprécié, il y avait beaucoup de considérations venant des gens. Mais si on prend quelqu'un qui parle du peuple juif en soi, d'un point de vue particulier, et du destin du peuple juif, etc., alors tout de suite, c'est plus audible. Tout de suite, c'est plus audible. Vous remarquerez qu'en France, les philosophes juifs, ils affirment toujours l'universalisme du peuple juif, parce que ça les dérange pas, les goyim. Mais il y a quelque chose de plus. C'est vrai que qui bêtit bet filaï carré l'école à Amim. Le bet amigdash et le judaïsme, il a quelque chose d'universel, mais il a aussi quelque chose de particulier. Et ça, dès que les goyim, ils entendent parler, c'est la fin des haricots. Faut jamais qu'ils en entendent parler. Et donc, à partir du moment où il fallait rentrer dans des distinctions entre le corban d'un juif et le corban d'un non-juif, il n'y avait plus rien à expliquer. Si tu leur expliques, bah, ils seront encore plus énervés.
Qui aurait pu voir vu la
Aux yeux des
gravité,
coups.
non mais vu de la gravité, c'est pas comme si l'animal avait une patte cassée ou je sais pas,
Mais du point de vue de
s'il était
la
à
halakha, ça ne fait
l'aise.
aucune différence. Du point de vue de la halakha, ça ne fait aucune différence.
Oui, je parle par rapport à l'enjeu, je parle pas d'un cas classique.
Non, alors ça, il faut voir. Il faut voir. Alors après,
L'enjeu est immense.
alors, donc, on va. Donc, c'est ça qu'on. Mais du point de vue de la halakha, un grand moum ou un petit moum, ça ne fait aucune différence.
Oui, ça va.
Voilà. D'accord. Donc, il dit, Mimela, les Chachamim, ils disent, malgré tout, on va accepter le Corban, Mishum Shlom Malchut. C'est quoi l'histoire? C'est que on aurait pu accepter ce corban, on aurait pu accepter ce corban, mais ou bien de tuer celui qui amène le corban, parce qu'ils avaient bien compris les Chachamim que Bar Kamsa, il avait quelque chose derrière la tête. Mais Rabbi Zecharia, parce qu'il était Anvatan, il supportait, il voulait pas faire des grands changements. Celui qui est Anvatan, c'est quelqu'un qui dit, on n'est pas à même de prendre des grandes décisions. Cette décision que vous voulez prendre de tuer Bar Kamsa ou d'amener le Corban quand même, c'est une trop grande décision pour des gens comme nous. On n'est pas assez grand pour prendre des décisions pareilles. Et ça, c'est l'humilité mal placée, parce que des fois, même si je suis pas Même si on n'est pas assez grand, mais des fois le moment le demande. Ouais. Mais plus que ça. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond. C'est que quelque part, la anava, c'est le fait de s'annuler, le fait de ne pas se voir comme quelqu'un. Comme il l'a dit, Moshe Rabbeinu, va'anachnu ma. Et en fait, si les Chachamim, ils avaient tué Bar Kamsa, ou s'ils avaient amené le Korban, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit et la volonté divine, elle n'aurait pas été réalisée. Donc, quelque part, Rabbi Zecharia, il est devenu l'instrument de la volonté divine. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est annulé, il est devenu l'outil comme s'il n'était rien. S'il avait été dans un état normal ou s'il avait été mieux disposé, il aurait compris que ce n'est pas le moment. Mais le fait qu'il était prédisposé à la Hanava, ça a fait qu'en fait, il s'est effacé aussi inconsciemment devant la volonté divine. La volonté divine, elle voulait détruire le temple. Si Rabbi Zecharia, il avait quelque part un ego, son ego, il lui aurait dit, écoute, ce n'est pas le moment de faire le Hanav. Ouais, c'est une anava mal placée. Mais le fait qu'il était anav, ça a permis justement que la volonté divine, elle se fasse à travers lui. Un peu comme Moshe qui dit, je ne suis rien, je suis que l'outil, je suis que l'instrument de la volonté divine. Donc, quelque part, la anava de Rabbi Zecharia, d'un point de vue personnel, elle était mal placée. Mais d'un point de vue du plan divin, elle était parfaitement à sa place. À quoi ça ressemble? On avait parlé de ça la semaine dernière, il me semble, il y a 2 semaines. Que Chizkiyahou, il savait que de lui allait sortir Ménaché. Et donc il a dit, je ne vais pas me marier. Et le Navi, il est venu le voir et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, mais je sais qu'il va se passer ceci et cela. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te comporter de manière rationnelle. Rabbi Zecharia, lui-même, il avait l'obligation de se comporter de manière rationnelle, d'avoir quelque part un minimum d'ego et de dire, je décide qu'on va tuer Bar Kamsa. Je décide qu'on va amener le Corban malgré tout. Ça, c'est personnel, mais dans le grand plan des choses, sa anava, elle est devenue l'instrument de la volonté divine. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la anava. C'est pas juste de la bêtise, de la faiblesse. C'est que quelque part, il s'est annulé à la volonté divine inconsciemment, mais ça l'est, le fait est là. Donc, on raconte, la Gemara, elle continue. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il n'avait pas d'ego, ben en fait, la volonté divine, elle a coulé au travers de lui, puisqu'il est devenu comme une marionnette. Quelqu'un qui a un ego, il ne peut pas être entièrement l'instrument de la volonté divine. Il y a un moi, il y a un moi qui s'oppose. Voilà. Mais Rabbi Zecharia, parce qu'il avait cette faiblesse, alors il n'avait pas de résistance, et donc il est devenu l'instrument, un peu quelque part à l'instar de Moshe, qui était Anav Mikol Adam, et qui dit, Vanachnouma, la volonté divine, elle coulait au travers de lui. C'est intéressant comme idée, que des fois, c'est toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi est-ce que certaines choses, elles se sont faites comme ci ou comme ça? Pourquoi est-ce que... Voilà, ils veulent dire, puisque les choses se sont faites comme ça, c'est donc c'est la volonté divine. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté ça? L'idéal est, Dieu, il fait ça. Dieu, il fait ce qu'il fait. Il dirige le monde comme il veut. Et le Ratzon Hashem, il s'accomplit quoi qu'il en soit. Est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai fait le bon choix? Non. Mais que je fasse le bon choix ou que je fasse le mauvais choix, le Ratzon Hashem, il se fait de toute façon. Et donc, cette faiblesse de Rabbi Zecharia, c'est devenu quelque part une anava au sens où il est devenu l'instrument de la volonté divine. Alors, une fois que les Romains ils se sont rendus compte qu'il y avait une graine d'insurrection chez les Juifs, qu'il y avait quelque chose d'irréductible, ils ont décidé de détruire le Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Néron, il est arrivé et Il a tiré des flèches dans tous les sens. Il a tiré des flèches dans tous les sens. Il a tiré une flèche à l'ouest, à l'est, et elle s'est dirigée vers Yerushalayim. Il a tiré une flèche vers l'ouest et s'est dirigée vers Yerushalayim. Et ainsi de suite, aux quatre points cardinaux, il a tiré une flèche, et la flèche, elle a dévié, elle est partie vers Yerushalayim. Et ça, c'était une forme de divination qui était fréquente chez les non-juifs, qu'on va voir comme où est-ce que la flèche, elle tombe. Et il a fait ça dans les quatre directions. Ouais. Pourquoi? C'était quoi l'idée de vérifier dans les quatre directions? C'est qu'il disait comme ça. Néron, il s'est dit comme ça. Dans le monde, il y a quatre points cardinaux. Ces quatre points cardinaux, ils représentent quatre chemins dans la vie. Il y a quatre chemins, il y a quatre approches de la vie. Si on regarde, par exemple, dans le fameux Maaseh Merkava, il y a quatre chayot qui portent le chariot divin. Le monde, il y a quatre directions qu'on peut emprunter. Et donc, il s'est dit, peut-être qu'il y a Yerushalayim au centre, mais peut-être que il y a. Donc, en général, quand j'ai un cercle, que j'ai un carré, que j'ai un centre, le centre, il relie tous les côtés. Mais peut-être que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déconnexion entre ce qu'on va appeler le nord et le chemin du nord avec Yerushalayim. C'est quoi l'idée? Si on regarde, par exemple, plus on va au nord, plus la vie, elle est dure. Et donc, plus il y a une éthique du travail, plus il y a une éthique de la responsabilité. C'est le nord. Plus on va au sud, plus il fait chaud, plus les gens ils sont indolents. C'est un fait. Le sud est toujours moins travailleur que le nord. C'est vrai en France, c'est vrai quand on compare les pays nordiques avec les pays du sud, etc., etc. Et il y a aussi une différence. Donc, ça, c'est le nord et le sud. Il y a l'est, mais il y a l'Est et il y a l'Ouest. Mais justement, il y a l'Est et il y a l'Ouest. On va dire que si on pourrait dire aujourd'hui, de manière un peu grossière, mais l'Est, il est plus collectiviste et l'Ouest, il est plus individualiste, par exemple. Donc, chacun des points cardinaux du globe, il représente une idéologie. Donc, Néron, il envoyait à Yerushalayim, il tire une flèche vers le nord, la flèche, elle repart vers Yerushalayim. Peut-être ça veut dire que le nord, la pensée nordique, elle s'oppose à Yerushalayim. Mais peut-être que Yerushalayim, il est encore compatible avec les autres démarches qu'il y a dans le monde. C'est vrai que maintenant, ouais, une fois qu'on a inventé, par exemple, la rationalité, alors la rationalité et Yerushalayim, peut-être qu'ils vont pas ensemble. Mais l'identité orientale, peut-être qu'elle s'accorde toujours avec Yerushalayim. Peut-être que même l'individualisme et Yerushalayim, ils trouvent une part. Pourquoi? C'est intéressant, Yerushalayim. Il y a des korbanot tzibour et il y a un korban yachid. Il y a la chorma, peut-être qu'on ne voit plus tellement le travail. Et donc, il tire une flèche vers le nord, la flèche, elle retourne vers Yerushalayim. Ça prouve juste qu'il y a quelque chose dans le monde qui s'entend plus avec Yerushalayim. La manière de penser du nord, elle correspond plus à ce qui se trouve à Yerushalayim. Donc là, il y a déjà une opposition. Le nord est en opposition avec Yerushalayim. Mais le reste du monde, il s'entend encore. Donc, on va tirer une flèche à l'ouest. Ah non, là, on tire une flèche à l'ouest. Et ça se retourne vers Yerushalayim. Ça veut dire que la pensée de l'Est, elle ne veut plus d'Yerushalayim. Elle comprend plus ce qui se passe à Yerushalayim. Et ainsi de suite dans les quatre points cardinaux. Donc en fait, quand on voit que où je tire les flèches, ça se retourne vers Yerushalayim, c'est l'expression du fait qu'il y a une rupture entre Yerushalayim et le reste du monde. Yerushalayim, c'est censé être le centre, ce qui rassemble le point de départ et le point d'arrivée. Et chaque endroit du monde et chaque idéologie dans le monde, quelque part, elle dit, je ne me retrouve pas dans Yerushalayim, je ne vois plus le rapport avec Yerushalayim. C'est ça le signe. Il y a une lutte de toutes les idéologies contre Yerushalayim. Si on tire vers la droite et que ça se retourne vers Yerushalayim, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, ça veut dire que toutes les idéologies du monde et tout ce qu'il y a de polarité dans le monde, il ne se reconnaît plus dans un centre commun, et donc Yerushalayim doit être détruit. Parce que le monde entier, maintenant, il s'oppose à Yerushalayim. C'est ça que ça signifie. C'est ça que ça signifie, le fait qu'il ait tiré des flèches dans les quatre directions et que chaque fois, les flèches sont retournées vers Yerushalayim. Ouais, on peut voir ça aujourd'hui. Ça veut dire, certaines idéologies, elles sont très antagonistes au peuple juif. Certaines idéologies, elles s'entendent beaucoup mieux. Mais là, Néron, il vient pour détruire Yerushalayim et il voit que tous les côtés du monde, ils veulent la guerre à Yerushalayim. Donc, on est vraiment arrivé à un moment de rupture et Yerushalayim doit être détruit. Pourquoi? Parce que il y a une déconnexion. Tant que Yerushalayim il est connecté au monde, bah, tu ne vas pas détruire le monde en détruisant Yerushalayim. Mais à partir du moment où le monde entier est en guerre contre Yerushalayim, alors oui, on peut se battre contre Yerushalayim. Ouais. Mais c'est plus que ça. Ouais. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a quelque chose de plus profond encore. C'est qu'à partir du moment où on dit que toutes les idéologies du monde et s'opposent au peuple juif, ça veut dire que le peuple juif, il vit tout seul. Si le peuple juif, il ne correspond à aucune idéologie, à aucune manière de vivre, et que toutes les manières de vivre et tous les modes de vie, toutes les idéologies, elles s'opposent au peuple juif, ça veut dire qu'en fait, le peuple juif, il est absolument indépendant. Parce que personne qui n'est absolument indépendant ne saurait vivre en porte-à-faux avec le monde entier. Donc, si le monde entier s'oppose à Yerushalayim, ça veut dire que le peuple juif, il est absolument indépendant dans sa manière de vivre, dans son mode de vie, dans sa fonction, etc. Et c'est ça fondamentalement l'idée de En Mazal et Israël. Tous les Mazalot du monde, ils s'opposent au peuple juif et quand même le peuple juif, il existe. Quand on dit En Mazal et Israël, ça veut dire qu'il n'y a aucun Mazal qui s'entend avec le peuple juif quelque part. Et pourtant, on existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est absolument indépendant. Si on est absolument indépendant, ça veut dire qu'on est irréductible. Si on est irréductible, alors on ne peut pas être intégré. On ne peut pas être intégré au royaume, à l'empire romain, donc il faut que le peuple juif s'effondre. C'était ça la réflexion de Néron. Une fois qu'il a compris que le peuple juif, il se voyait comme indépendant, il voulait voir est-ce qu'on pouvait quand même prendre le peuple juif et l'assimiler à une démarche du monde. Et quand il a vu que ça marchait pas, quand il a fait sa divination et qu'il a vu que le peuple juif, il s'entendait avec personne, il a dit: alors là, on a un problème. Le peuple juif, il est absolument indépendant. Et en tant que tel, il faut le détruire. Parce que sinon, si on ne le détruit pas, on ne pourra jamais l'intégrer à l'Empire romain. Ouais. Mais en même temps, une fois que Néron, il a compris ça, il dit: attends, j'ai un problème. C'est que j'ai un peuple qui vit depuis 1500 ans et qui ne dépend de personne. C'est un peuple particulier quand même. C'est vrai qu'il est en lutte avec le monde entier, mais il survit bien, il a besoin de personne. Le peuple juif, c'est un peuple qui n'a pas de mazal, c'est un peuple qui échappe au mazal. Donc moi, je vais aller et je vais me battre contre le peuple juif. Donc il est parti. Donc il est parti. Donc il est parti. Néron, il est parti. On dit qu'il a été mis de guerre. On avait parlé de ça la semaine d'avant. Parce que, en fait, il y a deux démarches. Quand on voit que le peuple juif, il est indépendant, on peut soit le détester parce qu'on veut appartenir au monde, soit on le rejoint. Mais il n'y a pas d'entre-deux. À partir du moment où on voit que le peuple juif, il fait pas partie du monde, soit on le rejoint, soit on cherche à le détruire. Et Néron, il a compris qu'au fond, il n'arriverait pas à détruire le peuple juif. Et donc, il a rejoint. Néron, il a rejoint le peuple juif. Donc, à la place, il s'est enfui. À la place, on a envoyé Aspasianus, qui est devenu après Vespasien, qui est devenu. Non, Vespasien, c'était pas le fils de Titus. On a envoyé Vespasien, qui a fait le siège de Jérusalem pendant 3 ans. Et là-bas, il y avait trois attirés, il y avait trois hommes riches. Trois hommes qui étaient essentiellement riches. Ça veut dire que quand tu demandes qu'est-ce que c'est ce monsieur, il est riche. C'était qui ces gens-là? Nagdiman Ben Gurion, Ben Kalba Savua ou Ben Tzitzit HaKeset. Nagdimon Ben Gurion, c'est quoi? Chez Nagdalo Chama Bavuro. Ouais, le soleil, il a brillé pour lui. Le soleil, il a brillé en particulier pour Nagdimon Ben Gurion. Ben Kalba Savua, le fils du chien rassasié, que tout homme qui rentrait chez lui affamé comme un chien, il sortait rassasié. C'est quoi l'idée que le chien, il est affamé? C'est que le chien, il a été tellement domestiqué que fondamentalement, il est plus capable de chasser. Donc, il dépend des gens. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a une halakha on a le droit de nourrir des chiens sauvages pendant Shabbat. On n'a pas le droit de nourrir d'autres animaux qui ne m'appartiennent pas, parce que les animaux sauvages, ils se débrouillent. Mais des chiens de la rue, au fond, ils ont besoin de l'homme. Ils vont fouiller dans les poubelles, etc., etc. Donc, le chien, c'est quelqu'un qui a faim parce qu'il dépend des autres. Et donc, un gars qui rentrait chez Ben Calvasavoua affamé comme un chien, il sortait quand il était rassasié. Et Ben Tzitzit HaKesed, c'est quoi? C'est que ses habits, ses tzitziot, les franges de ses habits, donc les tzitzit, ils traînaient pas par terre. Il avait des longs habits et des longues franges et des longues tzitziot, mais le que les tzitziot, ils se traînent par terre, ils traînaient sur des coussins. Et il y en a qui disaient autrement, c'est quoi Ben Tzitzit HaKesed? Que son habit, il était posé parmi les Dolim de Rome. Ça veut dire que quand il pouvait s'installer, il s'appelait Ben Tzitzit, mais il avait un siège. Comme on dit, j'ai un siège à telle ou telle assemblée. Ben Tzitzit, il avait un siège chez les Romains. Donc, c'était trois personnes qui étaient extrêmement influentes. Alors, il y avait le siège pendant 3 ans. Et ces trois riches, ils ont dit, regardez ce qu'on va faire. Moi, il a dit, je vais nourrir les gens d'Yerushalayim avec du blé et de l'orge. Le deuxième, il dit, je vais donner du vin et de l'huile. Et le troisième, il a dit, je vais donner du petit bois, civet. Et Chachamim, ils ont dit, celui qui a offert du petit bois, c'était la meilleure des choses. Ouais. Et par exemple, où est-ce qu'on a vu ça? Que Rav Hisda, toutes les charges, il a délégué à quelqu'un d'autre. Mais et toutes les portes, toutes les clés, il est donné à son shamash, mais la clé du petit bois, il a gardé pour lui. Pourquoi? Parce que le petit bois, ça te permet de faire cuire, ça te permet de transformer des aliments qui sont difficilement comestibles, et ça te permet d'avoir chaud pendant l'hiver. Donc, distribuer du petit bois, c'est quelque chose de très grand. Et ces trois riches ensemble, ils avaient de quoi nourrir le peuple pendant 21 ans. Ouais. Pendant 21 ans, il y avait des birionim, des gens violents, des gens agressifs, brutaux. Ils ont décidé que le plan d'attendre que les Romains ils se lassent, ça leur plaisait pas. Non, on veut la guerre maintenant. Ils ont dit aux Chachamim, venons faire la guerre maintenant, combattons maintenant. Les Chachamim, ils ont dit, ça va pas marcher, on n'est pas assez nombreux pour faire une sortie contre les Romains. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les réserves. Ils ont brûlé les réserves de blé et d'orge. Et donc, tout de suite, il y a eu la famine. Il y avait des réserves pour 21 ans. Mais quand on a des réserves, on est passif. Et ces Birionim, ils voulaient la guerre. Et donc, ils ont dit, soyons actifs. Et Chachamim, ils ont dit, ça ne marche pas. Alors, ils ont forcé les Juifs à la famine. En espérant qu'à cause de la famine, les Juifs seraient obligés de se battre. D'accord. Alors, il dit le Maharal, on va finir avec ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que ces trois riches ensemble, ils avaient de quoi nourrir 21 ans? Pourquoi tu as besoin de savoir que c'était 21 ans? Pourquoi il faut un chiffre précis? Ça aurait pu servir pour des années et des années. Pourquoi tu as besoin de préciser que c'est 21 ans? À part ça, comme toujours, quand on nous dit quelque chose comme ça dans une histoire aussi importante, ouais, les Mamaré Chazal, les Agadot Chazal, dit le Maharal, elles sont plus précises que les nouvelles de Tchekhov. Tchekhov, il disait, c'est un auteur russe, il disait, si au début de l'histoire il y a un pistolet, il faut que le pistolet ait été utilisé à la fin. Si c'est vrai d'une nouvelle, Kalva Chomer ben Benoch al Kalva Chomer, que c'est vrai des paroles de Chazal. Donc si Chazal nous dit qu'il y en avait pour 21 ans, c'est que c'est un détail important. Et pourquoi c'était important? Et deuxième chose qui était importante, c'est qu'on a dit que le siège il a duré 3 ans. Pourquoi 3 ans? Pourquoi c'est important? À part ça. Pourquoi est-ce que ces trois riches, on a trois personnes très riches. Ils ont proposé du blé et de l'orge, de l'huile et du vin et du bois. On n'a vu personne proposer de la bière, on n'a vu personne proposer de la viande, juste du blé, de l'orge, de l'huile, du vin et du bois. Pourquoi? Mais partant, on a quelqu'un qui propose du vin, mais personne qui propose de la viande. Entre le vin et la viande c'est plus important. Pourtant, il n'y a aucun de ces riches qui a proposé d'ouvrir ses réserves de viande. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces denrées qui sont mentionnées, qui ont été proposées, c'est celles-là et pas d'autres? Voilà. Et sur cette question, on va s'arrêter, si vous avez des questions.
Enfin, j'ai une question, alors pas directement sur le sujet, mais plus de manière générale par rapport à Shalom Malhout. On voit que l'argument de Shalom Malhout, il peut entraîner des assouplissements quelque part. Dans le cas du Michelet de Achashverosh, comment ça se fait que Mordechai, il a pas toléré cet argument de Shalom Malhout que les Bnei Israël ont dit? Bon, c'est pas directement lié au sujet, mais ça m'a
Non, non,
interpellé.
non. Parce qu'en fait, Mordechai, la question de Shalom Malchut, elle est quand c'est quelque chose d'incidentel, quand c'est quelque chose de momentané. Mais quand on a un problème, on a un problème de fond. Quand on a un problème de fond, que les Juifs, ils sont en train de se dissoudre dans un espèce de c'est en fait, les Juifs, ils devenaient de plus en plus des Juifs mendelssohniens. Sois Juif chez toi et citoyen à l'extérieur. Les Juifs à Shushan, c'était des citoyens shushaniens de confession mosaïque. Et donc, leur identité, elle est en train de se dissoudre. À partir du moment où on en arrive là, alors on touche presque à Yared Valeavor. C'est-à-dire que Mordechai, il avait compris que ce Michté, c'était encore une étape dans la dissolution de l'identité du peuple juif. Et quand on en arrive là, alors là, il faut être prêt même à la Messirut Nefesh.
D'accord,
Il fallait prendre le risque que le peuple juif meure ou qu'il y en ait qui meurent parce que la solution, sinon, c'est l'assimilation complète.
merci beaucoup.
Avec plaisir. D'accord? Colle tout? Il y a encore des questions?
Erev Tov, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Voilà. D'accord. Alors, je peux fermer le zoom? Bon, alors je vais mettre fin au zoom alors. Bonne soirée.